when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ces derniers jours, si vous avez à un moment ou un autre allumé un écran de télé, vous êtes certainement tombé sur les images très très violentes des récentes manifestations des Gilets jaunes à Paris. Et peut-être vous aurez noté comme nous que cette violence, elle se manifestait des deux côtés de la barrière, que la réponse policière semblait plus vive que d'habitude. Un sentiment renforcé ces derniers jours par différents indicateurs, notamment la répression très agressive des manifestations de lycéens. Nous, cette situation nous interroge. Pourquoi le maintien de l'ordre vire à la démonstration de force ? Qu'est-ce que ça nous dit de l'option politique choisie par nos gouvernants ? Est-ce que le conflit larvé entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris conduit à de mauvais choix stratégiques en termes de sécurité publique ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ces images des violences policières et des blessures liées à l'usage de la force, elles circulent de plus en plus sur le web, relayées notamment par des journalistes qui s'inquiètent de la tournure des choses. C'est le cas de David Dufresne, il connaît bien le sujet, il a signé une enquête sur le maintien de l'ordre aux éditions Pluriel il y a quelques années. Je vais passer un petit coup de fil pour faire avec lui un point sur la situation.
Ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sous nos caméras, nos téléphones, etc., c'est probablement un bouleversement, voire une explosion en plein vol du maintien de l'ordre dit à la française, qui grosso modo, depuis on va dire une trentaine d'années, consistait à montrer sa force pour ne pas s'en servir. Qui, depuis 68 et même avant, voulait qu'on ne vise pas la foule. Les CRS, si vous voulez, quand ils sont créés après la Seconde Guerre mondiale, ils sont créés pour éviter que ce soit l'armée qui s'occupe du maintien de l'ordre, l'armée qui, elle, est entraînée à tirer, à tuer, à mutiler. L'idée des CRS, et c'est l'incompréhension d'ailleurs de beaucoup de gens, c'est en gros de contenir la foule, pas du tout de foncer sur elle. Sauf, on va dire, au moment des dispersions. Là, ce qu'on voit, c'est que tout l'arsenal de dispersion est mis en place. En tout cas, à Paris, ça a été le cas. En tout cas, dans les lycées, en ce moment, ça semble être le cas. Cet arsenal de dispersion, de fin de manifestation, est enclenché dès le début. Donc là, on n'est plus du tout dans cette idée qui reste violente du maintien de l'ordre. C'est pas du tout les bisounours, hein. Mais disons, c'est l'idée d'un maintien de l'ordre psychologique où en gros 100 CRS contiennent 10 000 manifestants. Et ça, ça a basculé. Voilà, ça a basculé ça a basculé avec des tirs tendus qui étaient jusqu'ici totalement interdits. Les ordres étaient très clairs. Les ordres, c'était les tirs en cloche ou les tirs à ras de terre. Et là, on voit bien qu'on est passé à tout à fait autre chose, quoi.
Mais est-ce que c'est lié, on va dire, à des comportements individuels isolés, ou est-ce que c'est vraiment un système qui se met en place ?
Alors, logiquement, le maintien de l'ordre, c'est probablement, avec le renseignement, ce qu'il y a de plus politisé comme police. Le maintien de l'ordre, c'est la gestion de la cité, hein, c'est donc la police, donc c'est la politique, c'est-à-dire c'est la même racine. Ce qui se passe dans la rue, a fortiori en France, ce qui se passe dans la rue est éminemment politique. Donc, quand le ministre de l'Intérieur témoigne devant, par exemple, le Sénat, il a à ses côtés le directeur de la police nationale, le préfet de police de Paris, etc. Et on voit bien que c'est lui qui prend la parole. C'est bien un commandement politique. Alors, je ne dis pas que derrière chaque CRS, il y a Castaner. En revanche, derrière l'usage de telle ou telle arme, il y a, si vous voulez, un ordre politique. Alors, qui vient de la préfecture de police quand c'est Paris, qui, en règle générale, va prendre ses ordres au ministère de l'Intérieur, Beauvau, qui peut éventuellement en référer à l'Élysée. Il est très clair que si on utilise des bombes explosives, alors que la France est le seul pays à le faire en Europe, puisque ces bombes-là sont qualifiées d'armes de guerre dans les autres pays, c'est bien parce qu'il y a une décision politique. Alors, il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des moments d'énervement, de folie, appelez ça comme vous voulez, mais non, il n'en demeure pas moins qu'il y a manifestement des ordres très durs qui sont donnés.
Comment on explique qu'on continue à utiliser certains outils de maintien de l'ordre qui sont pourtant très très décriés, même au sein des forces de police, je pense notamment au flashball qui a été dénoncé dans un rapport de l'IGPN, il me semble que c'était en 2015, dont le défenseur des droits réclame depuis plusieurs années l'abandon. Pourquoi ces armes-là, parce que ce sont des armes, sont encore utilisées ?
Jusqu'ici, les mutilés par ces armes, grosso modo, ça ne défrayait pas la chronique. Ça n'atteignait pas, j'allais dire, le citoyen lambda. Donc, il y avait une espèce de laisser-faire. Hein. Entre, d'un côté, effectivement, des services de police qui disaient halte-là, même des syndicats de police. Et puis, finalement, probablement, on peut imaginer que la prise de risque était considérée comme relativement faible et qu'on pouvait continuer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des lycéens qui sont frappés, j'allais dire, de plein fouet au visage, des mains arrachées, etc., etc., il est possible qu'à un moment donné, il y ait un débat national autour de ça. Ce qui est absolument incroyable, c'est que même si on est dans un climat extrêmement tendu, on peut pas dire à l'heure qu'il est que l'appareil de l'État soit complètement en danger. Et on ne comprend pas, si vous voulez, l'usage de ces armes, puisque le maintien de l'ordre dit à la française, je le répète, normalement c'est justement la proportion, hein, c'est-à-dire riposter de manière proportionnée par rapport à la menace. Et à l'heure qu'il est, il n'y a aucune menace qui justifie qu'on mutile des gamins. Aucune.
Derrière ces violences, sur le cas spécifique de Paris, se pose un problème politique. David Dufresne a évoqué le cas de la préfecture de police de Paris. Et si on entend souvent le terme dans les médias, on oublie régulièrement quelle réalité il recouvre. Car cette institution est un cas unique en France. Elle a une très large autorité pour gérer les manifestations. Et son existence et l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis d'elle expliquent pour beaucoup la tournure des choses sur le terrain. Pour monter le fil de tout ça, je suis allé voir un autre confrère, Ismaël Alissat de Libération. Et je lui ai demandé tout simplement, c'est quoi la préfecture de police de Paris?
La préfecture de police, c'est une préfecture comme d'autres préfectures en France, mais elle a une petite spécialité, c'est qu'elle a beaucoup plus de pouvoir de police et qu'elle a une étendue d'action beaucoup plus importante que les autres préfectures. Elle est en fait quasiment autonome sur plein de questions et elle se passe de la tutelle du ministère de l'Intérieur. On dit souvent que la préfecture de police ou le préfet de police est un ministre de l'Intérieur bis.
C'est-à-dire concrètement dans les faits, quelle forme ça prend, cette autonomie, plus ou moins?
C'est-à-dire qu'elle a un certain nombre de services que ne possèdent pas les autres préfectures. Elle a toute une action sur, par exemple, le judiciaire, c'est le fameux 36 Quai des Orfèvres, qui dépend de la préfecture de police. Et ça, c'est inédit. Les autres préfectures n'ont pas de police judiciaire, par exemple.
Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait la volonté, il me semble, même si ce n'était pas une volonté inédite, puisque ça avait déjà été initié lors de précédents gouvernements, il avait la volonté de réformer cette préfecture, c'est exact ?
Alors, c'est un peu le grand tabou qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'envie, la tentation par les différents pouvoirs politiques de se passer de cette préfecture de police parce qu'elle les embête un peu. On dit que c'est un état dans l'état. Et puis, il y a quand même un aspect pragmatique. Il faut bien le dire, c'est si la préfecture fonctionne bien et plutôt une grosse machine qui est efficace d'un point de vue policier. Par contre, c'est aussi une maison qui est un peu aberrante d'un point de vue du doublement ou du triplement des fonctions avec d'autres services de police. Alors qu'il y a ils se marchent un peu sur les pieds. On a plein de services qui doublonnent avec la police nationale.
Et donc, il y a une volonté de réformer tout ça.
Alors, ce qui a été annoncé, c'est que le modèle qui serait peut-être retenu, c'est le modèle de la préfecture de police de Marseille, qui est un peu l'échelon intermédiaire, on va dire, entre une préfecture classique et la préfecture de police de Paris. Mais clairement, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec son discours de rationalisation des services publics et de pas avoir de tabou justement sur ces questions des vieilles administrations, etc. Et il était évident qu'allait se poser la question de la situation de la préfecture de police de Paris. Mais tous ses prédécesseurs s'étaient un peu cassé les dents quand ils avaient voulu s'attaquer à la préfecture de police de Paris. Il y a eu entre-temps aussi un événement qui a tendu les relations entre la préfecture de police de Paris, le ministère de l'Intérieur et l'Élysée, c'est l'affaire Benalla. Où, sur un dispositif justement d'ordre public, une manifestation parisienne le 1er mai, un collaborateur proche d'Emmanuel Macron s'est retrouvé sur le dispositif et a été filmé en train d'interpeller et de donner plusieurs coups à un manifestant. Et ensuite, dans l'enquête, il y a eu une chaîne de responsabilité dans cette situation qui a été démontrée. En fait, le préfet de police s'est retrouvé en première ligne parce que c'était ses services qui l'avaient accueilli. Mais en même temps, il est évident que la responsabilité première de cette situation, elle est plutôt à l'Élysée.
D'ailleurs, la préfecture de police avait plutôt rejeté la faute sur l'Élysée. Il me semble que lors de son audition, le préfet de police avait assez clairement dit les choses.
En tout cas, il avait tout de suite refusé d'endosser le rôle de fusible. C'est-à-dire qu'on était quand même à ce moment-là en pleine folie médiatique, notamment sur cette affaire. Il y a eu la commission d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a mené une série d'auditions et le préfet Michel Delpuech a été auditionné parmi les premiers. Et tout de suite, on a senti que voilà, il n'allait pas se laisser marcher dessus par l'Élysée, qu'il allait faire œuvre de la transparence dont il pouvait faire œuvre et que lui, il assumait ce qu'il pouvait assumer, c'est-à-dire qu'effectivement, il a accueilli dans le dispositif cette personne-là, mais qu'ensuite, le fait qu'il n'y a pas eu de sanctions derrière, voilà, le fait que Alexandre Benalla a pu retourner travailler auprès de Macron, ça, c'était pas à lui de l'assumer. Puis après, il y a eu aussi une affaire dans l'affaire, enfin, qui est un peu liée, c'est l'histoire des vidéos de surveillance de la préfecture de police de Paris.
Qui ont été transmises à Alexandre Benalla.
Voilà, où trois hauts gradés de la préfecture de police sont mis en cause pour avoir transmis des vidéos à Alexandre Benalla.
Ça a mis en lumière le fonctionnement de la préfecture de police de Paris, un peu en autarcie comme ça.
Oui, c'est ça, c'est que là, typiquement, la préfecture, sur cette affaire-là, on a découvert qu'en fait, il y avait une instruction qui avait été donnée de pouvoir extraire des images après des manifestations pour pouvoir faire, pour travailler dessus. Mais en fait, ce qui ne rentre pas du tout dans le cadre légal d'utilisation des images de vidéosurveillance. Et la préfecture de police de Paris fait ça dans son coin sans aucun problème. On s'en rend compte à l'occasion de cette affaire-là, en fait.
Là, on arrive à la question des gilets jaunes, des manifestations récentes. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de dispositifs de sécurité? Parce que ça a été beaucoup commenté dans la presse, notamment.
Alors, il y a eu trois week-ends jusque-là. Le premier week-end, c'était un week-end avec la plupart des mobilisations ailleurs qu'à Paris, donc où la préfecture de police de Paris a été assez peu sollicitée. C'était plutôt au niveau dans les autres préfectures qu'il y a eu un vrai enjeu. Après, il y a eu le second week-end, là où ce qu'ils ont appelé l'acte 2. Là, c'était l'idée que allait se rassembler, allait converger vers Paris toute la France en visant le palais de l'Élysée. Il y a eu une manifestation à proximité du palais de l'Élysée, enfin une manifestation, un rassemblement sur les Champs-Élysées. Et là, il y a eu une première scène, une des premières dégradations et violences assez importantes de ce genre-là. Mais donc le dispositif, cette fois-là, c'était en gros de faire un périmètre étanche autour des institutions, donc Assemblée nationale, Palais de l'Élysée, ministère de l'Intérieur. Donc c'est ce pôle-là qui est en bas des Champs-Élysées. Ce dispositif-là a tenu, mais il y a eu de très importantes dégradations sur les Champs-Élysées et dans les rues alentours. Et donc la gestion avait été un peu mise en cause à ce moment-là. Et puis il y a eu le week-end dernier, donc le 1er décembre, où là, ils ont essayé d'arriver avec une position politique, de dire, bon...
Quand vous dites « ils », c'est les pouvoirs publics.
Bah alors, c'est le ministère de l'Intérieur et son ministre, Christophe Castaner, en premier lieu, qui a peu adopté la stratégie d'une main tendue vers les gilets jaunes. Et en fait, ce qui est aussi une stratégie policière, parce qu'il voulait, en gros, dissocier d'un côté les manifestants non violents et de l'autre des manifestants plus radicaux qui commettent des dégradations ou des violences. Et en fait, cette stratégie-là a totalement échoué parce qu'il y a très peu de personnes qui ont accepté de rentrer dans le dispositif prévu qui était un dispositif lourd. Et en fait, les heurts se sont produits et l'essentiel des manifestants était en dehors du dispositif. Et là, il y avait moins de forces disponibles et moins de forces prépositionnées pour les gérer. Et donc, pendant des heures et des heures et des heures dans Paris, il y a eu énormément de dégradations.
Et il y avait aussi une partie des forces, si je ne me trompe pas, qui étaient déployées du côté de l'Élysée et de Matignon, qui donc il y avait un éclatement des forces.
Voilà, là, ils ont reproduit le schéma du week-end précédent, du week-end du 24 novembre, où ils voulaient à la fois protéger les institutions, donc faire un périmètre étanche, en même temps faire un périmètre filtrant pour les manifestants, où ils faisaient un contrôle des sacs sur les Champs-Élysées, et donc pour s'assurer que les personnes qui seraient sur les Champs-Élysées n'auraient pas d'outils ou d'armes sur eux pour commettre des dégradations et des violences. Et ils avaient prévu quand même qu'il puisse se passer des choses en dehors du dispositif. Mais il est vrai que ce qui était prévu pour la partie en dehors du dispositif n'a pas suffi à contenir pendant une journée des heurts dans Paris.
Comment ça a été perçu, ça, du point de vue public, médiatique, cette organisation, on va dire? Est-ce que ça, la seule faute incombe à Christophe Castaner ou est-ce que c'est un problème plus large?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la préfecture de police de Paris qui est aux commandes du dispositif. Donc, on va dire que d'un point de vue opérationnel, c'est la préfecture de police qui dirige. Après, il faut voir qui a pris la décision de faire un dispositif sur les Champs-Élysées, d'un dispositif filtrant. Et ça, c'est plutôt une position politique qui revient à Christophe Castaner.
Est-ce que ça dénote d'un problème de communication entre la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur? Peut-être depuis l'affaire Benalla, il y a eu une rupture de faisceau, on va dire, quelque part? Ou est-ce que c'est juste, on va dire, la conséquence simplement d'une mauvaise décision politique?
C'est sûrement un peu des deux. Et puis c'est aussi le fait que traditionnellement, la préfecture de police pilote seule ces dispositifs de maintien de l'ordre, contrairement aux autres préfectures. C'est-à-dire que typiquement, les compagnies républicaines de sécurité et la gendarmerie mobile fournissent des unités à la préfecture de police et derrière ne participent pas du tout à l'aspect commandement. Et en fait, la préfecture de police récupère ces unités et gère seule le dispositif. Mais par contre, il y a une porosité très importante sur les dispositifs et sur les manifestations à risque à Paris entre le ministre et la préfecture de police, parce que le risque politique est énorme en cas de graves troubles. Et donc, la préfecture de police, en fait, sur les événements à risque, est en coordination avec le ministère.
On sait quel sont l'état des relations entre la préfecture de police de Paris et la place Beauvau?
On les dit un peu tendus, mais c'est En tout cas, le préfet de police a été maintenu après l'affaire Benalla. Il aurait pu changer de préfet de police. Pour l'instant, c'est toujours le même. Moi, j'ai pas spécialement d'indices qui permettent de savoir quelles sont les relations. Pour l'instant, en tout cas, il est toujours en poste.
Selon nos infos à nous, malgré le maintien du préfet, les relations seraient plus que tendues avec le ministère. Le dialogue semble même rompu, d'où peut-être la volonté de l'exécutif de se faire le plus inquiétant possible, à la fois dans sa communication ultra anxiogène et dans sa gestion de l'ordre de plus en plus musclée, afin de dissuader les rassemblements et reprendre la main sur un conflit qui lui échappe. Merci à David Dufresne et Ismaël Alissat pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.